Ce matin, nous allons présider la session analyse socio-anthropologique de l'accouchement institutionnalisé. Nous allons commencer par notre première présentation qui sera faite par M. Seydou Darbo, un étudiant en sociologie. Cette présentation est faite dans le cadre d'une étude qu'il avait menée pour son mémoire de fin de cycle de maîtrise et qui a été soutenue en janvier 2010 à l'Université de Ouagadougou. Il faut dire que M. Seydou, c'est pour la première fois qu'il participe à un colloque international. Après cette étude, il a été impliqué dans un projet de recherche norvégien sur les coûts sociaux des avortements à risque. Il a aussi contribué à l'élaboration du rapport sur la mortalité maternelle au Burkina Faso qui a été mené par Amnesty International. Ce rapport s'intitule « Donner la vie, risquer la mort ». Donc, nous allons laisser la parole à Seydou pour nous faire sa présentation.
On va donner la parole. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier l'ensemble des organisateurs de ce colloque de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir non seulement participer à ce colloque, mais aussi de pouvoir présenter une communication. Et donc, le titre de la communication, comme indiqué, approche anthropologique des cas de décès maternel à partir d'un hôpital du Burkina Faso. Il faut dire que cette recherche m'a amené à séjourner pendant 4 mois dans les locaux d'une maternité au Burkina Faso. Et pendant ces 4 mois, j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui sont décédées. Certaines, avant leur décès, m'ont demandé ce que je faisais dans les locaux de la maternité, étant donné qu'elles me voyaient presque tous les jours. Je leur ai dit que j'étais là dans le cadre d'une étude sur les problèmes liés à la santé maternelle. Après, quelques-unes sont décédées. J'ai rejoint les familles dans les communautés pour des entretiens. Ces entretiens ont amené ces derniers à me dévoiler, si je peux le dire, la vie privée de ces derniers. Ils m'ont parlé de leur intimité sexuelle, de leur rapport avec leurs entourages. Et j'ai eu des données que j'ai pu utiliser dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Et je ne sais pas à quoi ces données vont servir, d'autant plus que cette étude ne va pas permettre à ces femmes de regagner la vie. Mais au moins, je sais une chose, c'est qu'elles jouent un rôle déterminant dans la recherche des solutions au problème de la mortalité maternelle. Et je considère donc ces femmes comme des lanternes qui ont brûlé pour m'éclairer un chemin. C'est pourquoi, avant de commencer cette communication, je tenais à leur rendre hommage. Et avec votre permission et celle du président, de Madame la Présidente, j'aimerais demander une minute de silence en l'honneur de toutes ces femmes que j'ai vues mourir pendant mes séjours à l'hôpital. Donc, je m'appelle Drabo Seydou et je suis étudiant titulaire d'une maîtrise en sociologie. Et donc, c'est dans le cadre de mon mémoire de maîtrise que j'ai mené cette étude. Un mémoire qui a été co-encadré par André Soubega, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou, et Madame Fatoumata Ouattara, qui est anthropologue à l'IRD, qui va juste intervenir après moi. Je tenais au passage à les remercier pour tous les encadrements dont j'ai pu bénéficier. Pour ma part, je considère cette présentation comme la restitution d'un travail académique, donc très formateur pour moi. Et donc, c'est avec humilité et modestie que je prends la parole devant vous, parce que je sais que je n'ai rien à vous apprendre sur les questions liées à la mortalité maternelle et à la recherche. Donc, pour commencer, le plan de la présentation. Nous allons d'abord situer l'état de la question, ensuite les objectifs de la recherche, la méthodologie et les résultats, et enfin la conclusion. Donc, depuis lundi, les différentes communications ont montré que la mortalité maternelle est un phénomène, si je peux le dire, universel, d'autant plus que tous les continents sont concernés par ces problèmes. Et le Burkina Faso connaît également un taux élevé de mortalité maternelle. Il fait en effet partie des 18 nations où le risque pour une femme de mourir, de perdre la vie à l'accouchement, est extrêmement élevé. Donc, il y a quelques données. Le ratio de... Excusez-moi, je trouve que c'est... Le défilement est très lent. Je sais pas si...
Il faut parler, je vais faire.
Donc, le ratio de mortalité maternelle était estimé en 1986 à 610 naissances pour 100 000 naissances vivantes. À 566 décès pour 100 000 naissances vivantes en 91 et enfin à 484 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1998. Et donc ces données relèvent donc de l'importance du problème au Burkina Faso et cela a valu l'engagement de nos autorités à travers donc les conférences de Nairobi en 1987 et Niamey en 1989 sur la maternité sans risque, où le pays s'est engagé à trouver des solutions au problème de la mortalité maternelle. Cet engagement s'est concrétisé par l'adoption en 1998 d'une stratégie sur la maternité à moindre risque couvrant la période 1998-2000 et une seconde stratégie nationale pour une maternité sans risque couvrant la période 2000-2008. Ces deux stratégies ont contribué à mettre en place plusieurs actions avec l'appui des partenaires, notamment à travers la formation du personnel, la construction et l'équipement des centres médicaux avec antenne chirurgicale, l'organisation des soins d'urgence. Et ces actions, si je peux le dire, ont contribué d'une certaine façon à faire baisser le taux de mortalité maternelle qui est passé de 484 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1998, à 306 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006. Donc nous constatons effectivement une baisse, mais en dépit de cette baisse, la mortalité maternelle reste toujours un problème préoccupant parce que ce sont des filles qui meurent, c'est des hommes qui perdent leurs femmes, c'est des enfants qui perdent leur mère. Et elle est également une préoccupation pour l'ensemble de la communauté scientifique. Mais s'il y a une chose que j'ai retenue en tant qu'étudiant, c'est que les études relatives au décès maternel sont dominées par un discours médical. Et ce discours médical tend souvent à négliger le contexte social dans lequel interviennent les décès maternels. Et je pars de la simple idée qu'on ne peut pas parler de mortalité maternelle sans évoquer la grossesse. Et parler également de la grossesse revient donc à parler aussi bien de sa gestion sociale que de sa gestion médicale. Une gestion sociale qui amène les femmes enceintes dans un rapport avec leur environnement social à travers les questions liées à la sexualité, aux normes liées à la sexualité, à travers les rapports des genres, etc. Et au cours de la gestion de la grossesse, cette femme est conduite dans un centre de santé pour sa prise en charge. Et nous assistons à une interaction entre soignants, femmes enceintes et leur entourage dans la prise en charge des grossesses. Et tout cela fait de la mortalité maternelle un phénomène qui peut être justifiable d'une approche anthropologique. Et donc, si j'ai intitulé le thème ainsi, il s'inscrit dans une logique de compréhension des discours, des pratiques et des représentations relatives à la prise en charge de la grossesse. Donc, en méthodologie, on est parti un peu en arrière. Et donc, les objectifs de cette étude sont de comprendre la gestion sociale et médicale des décès maternels. Ensuite, de situer les circonstances dans lesquelles les décès maternels interviennent. Et enfin, la perception des soignants et des usagers par rapport au fait des décès maternels. Et pour atteindre ces objectifs, nous nous sommes munis d'une approche méthodologique. Et avant de vous parler un peu de cette démarche, il faut dire que notre enquête s'est déroulée de septembre 2007 à mai 2008. Et l'observation et la sélection des cas se sont déroulées au centre hospitalier universitaire X, je dirais pourquoi j'ai mis X, et a duré 4 mois, soit du 2 septembre 2007 au 3 janvier 2008. pourquoi nous avons choisi un centre hospitalier universitaire pour mener notre étude. D'abord, pour une question méthodologique, nous avons voulu travailler dans un espace médical qui est un espace partagé par les femmes enceintes, les soignants et leur entourage, parce que cet espace nous permettait de rester sur place, de mener une observation et de pouvoir avoir accès aux différentes données que nous recherchions. Pour cela, nous aurions pu travailler dans n'importe quel centre de santé. Mais pourquoi avoir choisi un centre hospitalier universitaire? Ce choix répond également à une question théorique, parce que ce centre hospitalier est l'un des plus grands centres de référence du Burkina, qui a développé plusieurs réponses aux problèmes de santé maternelle à travers la construction d'un laboratoire, d'une banque de sang, de personnel qualifié. À la maternité de ce centre, il y avait par exemple 100 prestataires de soins, dont 15 gynécologues et 26 sages-femmes. Et donc, si, en dépit de ces dispositifs, si des cas de décès maternels y sont toujours constatés, cela nous donne de bonnes raisons d'interroger la mise en rapport de ces dispositifs avec la logique des acteurs en situation d'interaction permanente. Donc, au niveau de la méthodologie, pour aller un peu rapidement, nous avons emprunter une démarche empruntée à l'anthropologie sociale qualitative à travers des observations et des entretiens qui nous ont amenés à faire des entretiens semi-directifs et informels auprès de 12 soignants et 11 proches de femmes enceintes décédées. Ensuite, nous avons mené une observation directe qui s'est caractérisée d'abord par une observation participante et flottante, si je peux le dire. L'observation participante nous a amené à jouer des rôles d'accompagnants, de brancardiers, de coursiers, de guides, etc. Et cela nous a permis de comprendre les logiques en cours au sein du service. Ensuite, l'observation flottante, parce qu'une étude sur les décès maternels dans un centre hospitalier mené par un étudiant qui n'est pas du corps médical est un peu très complexe. Et il nous a fallu être souvent, avoir du tact pour pouvoir récolter nos données. Ensuite, nous avons consulté des sources secondaires à travers l'usage de documents tels que des ouvrages, les dossiers médicaux, les carnets de santé des femmes enceintes et des ordonnances. L'ensemble de ces techniques nous a permis de reconstituer une partie de l'histoire de 8 femmes enceintes décédées sur un total de 48 cas que nous avons recensés en 4 mois. Cependant, pourquoi avoir choisi 8 cas parmi 4 cas? Nous avions des critères, notamment la pertinence théorique du cas et la possibilité pour nous d'apprendre avec le cas. La pertinence théorique du cas, parce que tous les cas de décès maternel qui intervenaient dans ces centres hospitaliers n'étaient pas des décès liés à la grossesse. Les deux derniers critères étaient liés plutôt à l'accessibilité de ces décès à l'enquête. Donc, concrètement,
On peut continuer.
Donc, oui. Et mener également une étude dans un centre hospitalier répond à des questions éthiques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Peut-être que lors des questions, je pourrais expliquer quels sont les éléments dont j'ai tenu compte. Au niveau des résultats, donc, je vais vous présenter succinctement les différents cas. Nous avons le cas 1. Une femme qui n'enfantait que des filles, qui s'appelle Azara. Je souligne au passage que c'est un nom fictif. Ensuite, le cas 2, une femme qui tenait à donner un enfant à son mari. Ensuite, le cas 3, jamais 910, pourquoi pas 11, Mariam. Le cas 4, Zénabo ou la confession avant la mort. Le cas 5, quand la demande d'avortement coïncide avec une offre illégale d'avortement, Fanta. Le cas 6, Kumba avait fait 2 jours sans soins et avait aussi bu l'eau de Javel dans la salle d'accouchement. Le cas 7, une femme dont la prise en charge dépendait des talibés. Le cas 8, Alima ou la déception amoureuse, point d'interrogation. Au niveau des résultats, donc en grand 1, nous allons vous parler de la gestion sociale de la grossesse. Il faut dire que l'analyse des éléments qui entourent la grossesse doit se situer à un niveau de complexité supérieur, car la grossesse implique non seulement la femme enceinte, mais aussi tout son environnement social. Et donc, toute la gestion de la grossesse va dépendre de la façon dont elle sera accueillie et accompagnée au sein de cet environnement social. Et l'ensemble des cas va nous montrer que le contexte d'apparition de la grossesse avait une influence sur l'implication de son environnement social dans sa prise en charge. Donc, à petit 1, nous avons le contexte d'apparition de la grossesse et sa gestion sociale. Nous avions des grossesses qui apparaissaient dans un contexte de rupture avec les normes sociales. Le cas des grossesses préconjugales et des grossesses extra-conjugales. Je vais lire cette partie-là, c'est pas trop long. Donc, au niveau des grossesses préconjugales, nous avons le cas de Fanta. Fanta était une jeune fille de 18 ans qui était célibataire. Elle vivait avec son frère et les deux femmes de celui-ci dans un secteur de la ville dans laquelle elle résidait. Gérant d'une cabine téléphonique, elle fit la connaissance d'un garçon avec qui elle entretenait de bonnes relations jusqu'à ce que le frère aîné de Fanta leur demanda un jour de régulariser leur relation. Expression couramment utilisée pour parler de mariage. Et comme tout était en accord avec cette proposition et n'attendait que la date du mariage, cependant, Fanta tomba enceinte avant la date du mariage et comme elle craignait la colère de son frère à la découverte d'une grossesse, elle décida de faire un avortement en complicité avec son futur mari et la mère de ce dernier. La grossesse extra-conjugale, le cas de Zenabo. Zenabo était une femme de 31 ans mariée à un cultivateur. Elle était commerçante et vivait dans une ville du Burkina Faso. Un soir, elle fut évacuée du centre médical de cette ville vers le centre hospitalier universitaire X, avec comme diagnostic médical suspicion d'avortement en cours compliqué d'anémie sévère. Au cours d'une discussion informelle avec son mari, il nous confia que c'est à la maternité qu'il a découvert que sa femme avait été enceinte. Et quelques heures avant son décès, elle réclamait son mari en ces termes : Docteur, docteur, appelez mon mari, je vais lui dire la vérité. Appelez mon mari, je vais lui dire la vérité. Donc tout cela porte à croire que le mari n'était pas bien sûr au courant de cette grossesse. Et ces deux grossesses, donc, comme nous l'avons vu, apparaissent comme étant en rupture avec les normes sociales. Parce qu'en général, dans la société Mouara au Burkina Faso, il est interdit à la jeune fille ou à la femme d'avoir des rapports sexuels en dehors d'un contexte conjugal. Et lorsqu'une grossesse survenait dans ce contexte, cette grossesse mettait à nu la transgression de cette norme. Et la femme pouvait faire l'objet de condamnations morales ou de sanctions diverses. Ces deux cas que nous avons présentés n'ont pas fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation, puisque les femmes ont anticipé. Mais ils nous montrent à quel point la pression sociale pouvait avoir une influence sur la gestion de la grossesse. Elles ont eu recours à l'avortement dans le simple but d'éviter de nombreux jugements désapprobateurs. Pendant que certaines femmes ne veulent pas garder leur grossesse parce qu'elle n'est pas en rupture avec les normes sociales, d'autres femmes souffrent aussi du fait que leur grossesse ne coïncide pas avec les attentes de la famille, du conjoint ou d'elle-même. Et cela s'illustre à travers les désirs d'enfants et la préférence des sexes liés aux enfants. Je ne vais pas lire tout ça. Au niveau des désirs d'enfants, c'est l'histoire de Kadi qui avait été mariée à un homme qu'elle a dû fuir pour rejoindre un autre homme. Et dans sa seconde relation, elle n'arrivait pas à donner un enfant à son mari. Et dans le dossier médical à l'hôpital, elle n'avait pas mentionné qu'elle avait un enfant. Pourtant, lorsque nous avons été dans sa famille, il se trouvait qu'elle avait eu un enfant pour son premier mari, mais ce dernier ne comptait pas pour la seconde famille. Et de sa nouvelle relation, elle tenait à avoir une grossesse. Et donc, en 3 ans, elle eut 2 grossesses qui aboutissent tous à des échecs parce que les enfants mouraient quelques jours après leur naissance. Et donc, elle était dans un contexte où elle avait des difficultés avec sa belle-famille et son conjoint. Ensuite, la préférence des sexes liés aux enfants. C'est l'histoire de Azara, une femme de 41 ans qui étaient mariés à un homme. Ils avaient une vie difficile parce qu'elle lui avait donné 6 enfants, dont 5 filles, dont 6 filles. Et à la septième grossesse, le mari a su également que l'enfant qui allait naître allait être une fille à travers une échographie. Et pour cela, Hazar a dû fuir son foyer. Donc elle a parcouru 200 km pour rejoindre une amie dans une autre ville du Burkina Faso. Donc au cours de l'accouchement, elle trouva la mort.
Je continue.
Oui. Ensuite, le cas de la préférence toujours liée au sexe de l'enfant, c'est l'histoire de Zenabo, qui est une jeune fille de Alima, qui est une étudiante de 30 ans, qui était célibataire, mais qui entretenait des relations avec un homme marié, qui lui avait fait la promesse de l'épouser parce qu'elle avait pu lui donner un garçon, alors que sa femme légitime n'enfantait que des filles. Malheureusement pour elle, après son accouchement, son partenaire n'a pas tenu à sa promesse. Et déçu donc de cette trahison entre griffes, Alima tenta de se suicider à maintes reprises. D'abord, elle a tenté de se poignarder une fois. Ensuite, elle a tenté de s'ouvrir les veines. Et à la troisième tentative, elle avait arraché des fils de suture avec ses ongles.
Je peux continuer.
Donc, à travers l'histoire de tous ces cas, des grossesses préconjugales aux grossesses extra-conjugales, des grossesses par rapport aux attentes de l'entourage, des grossesses par rapport aux attentes du conjoint ou de la femme, nous voyons que les comportements des femmes dans leur rapport à la procréation sont constamment influencés par des normes sociales en matière de sexualité et des exigences familiales. Ces histoires des femmes, au-delà de toutes ces histoires, nous montrent que les femmes négocient permanemment leur rapport dans un contexte de procréation en prenant en compte 3 variables que nous avons appelées les 3 M de la procréation, notamment le mariage, parce qu'il est interdit à la femme d'avoir une grossesse en dehors d'un contexte mariage, donc je pense aux grossesses préconjugales. Il est également interdit à une femme qui est dans un foyer conjugal de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari, donc maternité. Et lorsque la femme est mariée et qu'elle enfante des enfants, le sexe, la valeur sociale accordée au sexe des enfants est également une réalité à prendre en compte. Et donc, à travers cela, nous voyons qu'il y a forcément une dépendance entre la femme et son entourage, particulièrement entre la jeune fille et ses parents, pour celles qui ne sont pas mariées, et entre la femme mariée et son conjoint.
Revenons en arrière. C'est difficile, c'est pas grave.
Et donc, à travers donc, ces rapports, nous voyons qu'il y a une dépendance relationnelle entre la femme enceinte et son entourage, et cela nous montre... Et cela nous montre qu'il y a plusieurs enjeux qui interviennent dans la gestion de la grossesse, qui se traduisent à travers l'honneur de la famille, ensuite, l'honneur de la femme, l'assurance de la postérité, la reconnaissance sociale pour la femme mariée qui donne un enfant à son mari, la grossesse et son fruit comme une stratégie d'accès à un foyer conjugal. Ensuite, ces enjeux nous montrent avant tout que la grossesse, en plus d'être un fait biologique, est aussi un fait social, car elle est gérée en fonction des attentes, des valeurs et des représentations des femmes enceintes et certains membres de leur entourage. Si bien que nous sommes tentés de dire que la grossesse d'une femme enceinte est aussi celle de son entourage social, d'autant plus que la gestion de la grossesse va dépendre donc de toute la mobilisation sociale qu'il y aura autour. Mais cependant, les femmes dans la recherche des soins, on recourt aux structures de soins, toujours sous l'influence de cet environnement social. Nous avons l'exemple de Hazara et Zenabo. Parce que, généralement, les femmes sollicitent beaucoup de solidarité lorsqu'elles sont dans des difficultés. On peut se trouver dans des situations où le conjoint est impliqué dans le début du grossesse, dans le début du processus de prise en charge et qui disparaît vers sa fin. Tandis que dans d'autres contextes, Le cogent est absent au début du processus, mais réapparaît vers sa fin. Nous avons l'exemple de Hazara et Zenabou. Dans le premier cas, le cogent qui était impliqué au début du processus et qui a disparu était lié aux enjeux liés à la grossesse, d'autant plus que le sexe de l'enfant ne répondait pas à ses convenances. Tandis que dans le cas des grossesses adultérines, le cogent est souvent contourné. Mais dans notre contexte d'étude, le cogent contourné au début de la grossesse extra-conjugale a fait son réapparition parce qu'à un moment donné, la femme était confrontée à des difficultés financières. Et cela nous amène à dire que l'implication de certains acteurs considérés incontournables dans la gestion de la grossesse sont souvent liés aux enjeux par rapport à la grossesse et surtout à leur solvabilité financière. Il y a aussi des éléments...
On continue vite.
Excusez-moi, je serai obligé de sauter certaines parties relatives au contexte social. Nous allons directement au contexte médical de la prise en charge de la grossesse. Nous sommes pris par le temps. Et ce que j'ai retenu également dans cette étude, les facteurs qui interviennent pendant la gestion de la grossesse ont une certaine influence dans son accès. On peut rester ici. Dans son accès, à travers donc les différentes circonstances. Nous avons par exemple trois variables qui font du processus de recours aux soins obstétricaux un processus qui a plusieurs dimensions. D'abord, une dimension circonstancielle. Tout dépend des circonstances qui entourent la grossesse. Dans le cas de grossesse préconjugale et grossesse extra-conjugale, les femmes ont recours à l'avortement, ne vont pas forcément dans des structures officielles de prise en charge. Et pendant la maladie, au cours de la grossesse, certaines femmes ont recours à la médecine traditionnelle, et c'est quand une complication apparaît qu'elles ont recours aux structures de soins dans des délais restreints. Ensuite, le processus de recours a une dimension relationnelle, parce que généralement, les femmes ont recours dans les structures de soins, c'est là qu'elles y connaissent quelqu'un. Et cela entraîne souvent des dysfonctionnements dans la chaîne thérapeutique. Nous avons des exemples, mais comme nous sommes pris par le temps, nous ne pourrons pas tout citer. Et il y a une dimension structurelle.
Continue.
Donc, au niveau de la gestion sociale de la grossesse, nous avons plusieurs faits. D'abord, la prise en charge de la grossesse au niveau des structures de premier niveau, notamment les CSPS, et les CMA qui sont des centres de référence de premier et second niveau. Et là-bas, les femmes sont souvent confrontées à des questions de prise en charge et nous avons constaté beaucoup de décès liés au contexte d'évacuation. Nous avons notamment la privatisation des patientes. C'est l'exemple d'une femme qui a fait 4 heures de temps après sa décision d'évacuation parce que la soignante qui l'avait reçue attendait celle qui la suivait, qui était l'amie à sa cousine. Ensuite, les hésitations. Hazara, après.
Monsieur Sédou, vous pouvez venir aux conclusions, s'il vous plaît.
D'accord. On va directement à la conclusion. Oui, je m'excuse beaucoup parce que en venant dans ce colloque, je savais que je n'allais pas pouvoir dire tout ce que j'avais vu et entendu. Et comme c'est la première fois, je ne pouvais pas vraiment me résumer parce que je tenais à vous partager toute l'expérience et toutes ces expériences que j'ai vécues lors de ce travail. Mais néanmoins, il y a des variables qui se dégagent dans cette étude que je vais vous présenter au niveau de la conclusion. Donc on peut aller rapidement. Peut-être qu'après, au cours des discussions, on pourra toujours revenir si c'est fait. Permettez-moi de conclure, s'il vous plaît.
J'ai trop appuyé.
Peut-être que tu peux rappeler les points essentiels que tu as retenus rapidement. Parce que c'est long.
Donc, au niveau des dysfonctionnements organisationnels, il faut dire qu'au niveau du centre hospitalier universitaire dans lequel nous avons mené notre étude, nous avons vu plusieurs stratégies d'évitement et de camouflage. Par exemple, en l'absence d'un soignant qualifié, les agents de santé n'hésitent pas à déclarer le bloc opératoire occupé ou tout simplement se défaire d'une responsabilité au cas où un décès maternel surviendrait. Ensuite, nous avons vu des cas où certaines femmes se sont vues privées de soins parce que leur dossier a été égaré. Et l'égarement de ces dossiers nous a amené à nous intéresser à cette problématique. Et nous avons vu que c'est souvent à cause de certaines contraintes administratives qui fait que certains soignants n'hésitent pas à déchirer des dossiers parce que incomplets ou difficiles à présenter au staff. Et donc, parce que généralement, le travail à l'hôpital ne s'évalue qu'au staff par le biais des dossiers médicaux, si bien que les soignants mettaient plus du sérieux dans la production de ces données que dans la prestation de des soins. J'avais présenté le cas de la femme qui avait bu l'eau de Javel dans la salle d'accouchement et qui avait fait 2 jours sans soins parce que tout simplement ses dossiers avaient été égarés et elle ne pouvait pas avoir accès aux soins, d'autant plus que les soignants ne savaient plus la conduite à tenir. C'est pour que je tenais vraiment à présenter la conclusion, qui sont des variables qui peuvent faire l'objet d'études à venir. De la famille. Ensuite, la nature de l'attachement et les liens de dépendance des femmes enceintes avec leurs proches. L'histoire personnelle de ces femmes enceintes, notamment la façon dont elles ont vécu et géré leur grossesse. Le partage et la confiance dans la relation thérapeutique. Ensuite, l'absence ou la présence d'un soutien social à travers les conditions dans lesquelles différents membres de la famille et de l'entourage vivent et gèrent leurs relations avec la femme enceinte pendant la grossesse. Le recours aux soins et l'itinéraire thérapeutique au cours de l'évolution de la grossesse. Les décisions liées aux évacuations des femmes enceintes, le délai de la prise en charge en cas de complications, le fonctionnement normal de la chaîne thérapeutique dans la prise en charge médicale et l'offre de soins de qualité. Ces variables nous permettent de comprendre que les décès maternels sont la résultante d'une multitude de faits liés aussi bien à des facteurs sociaux qu'à des facteurs médicaux. Pour terminer, ce travail ne nous permet pas de conclure sur des certitudes quant aux causes réelles des décès maternels. Cependant, il nous a permis d'échafauder des apports de ce que peut être une analyse qualitative dans la compréhension des faits de décès des femmes pendant la grossesse. Je vous remercie.
Merci, M. Seydou, pour votre brillante présentation. Dommage, elle était longue, mais je pense que nous avons pu comprendre la relation qui existe entre comment est-ce que nous pouvons comprendre les décès maternels avec les différents facteurs qui peuvent influencer ces décès, facteurs sociaux et facteurs médicaux. Donc,